Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 24 mars 2007, il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles avec aujourd'hui pour commencer
maintenant
le supplément week-end avec Spartan
suivi de
ça c'est du sport les résultats sportifs
ouais ensuite
à 15h du mix avec le potager, 16h scène transmission de l'actualité des scènes et de la musique live, 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, CU Punk, 20h La Cité Expérience, 21h30 Stay Tuned. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Bonjour JB.
Salut Xavier.
Ouais, ça va. On était un petit peu fatigué au départ, je ne sais pas, mais je pense que maintenant, ça a bien commencé. Je vous rassure, on est sur un hymne totalement guerrier. Et pour vous le prouver,
ça va défourailler sa race ce matin.
On va vous passer un extrait de la compilation. Peace, not war! Fundamental Rape Tactic of War.
Yeah.
मंदिर नहीं जहां प्रवचन किया जाए, ये अदालत है जिसमें एक मासूम की जिंदगी का फैसला होने वाला है।
C'était extrait d'une compilation qui était sortie contre la guerre, le retour de la guerre, de la vengeance en Irak. Et c'était vraiment supposé par les artistes en question, le Global Peace Movement Fundraiser, comme étant absolument inutile. Et ben, 4 ans après, on a vu ce que ça donne. Peace, Not War, Fundamental, j'étais insigné sur cette compil. Il y a aussi Tariq Ali, Miss Dynamite, Roots Manuva, Public Enemy, Midnight Hall, il y a du monde, voilà, Massive Attack et plein d'autres. Ce sont pas forcément des morceaux originaux. Par contre, après, il y a une compilation live qui était beaucoup plus intéressante. Bonjour JB, ça fait longtemps que tu n'étais pas venu sur cette antenne.
Ça va ?
Oui, très bien. T'as vu, on a des émissions qui sont prêtes, qui sont bien préparées, et puis voilà.
C'est encore une attaque personnelle, est-ce que je vois ?
Bien évidemment, mais ça tu savais pourquoi. Enfin bon, ceci dit, bonjour Thomas.
Et rebonjour Xavier.
Voilà, aujourd'hui c'est une spéciale héros, super-héros et héros de guerre. On est allé voir hier 300.
Eh oui.
On a un illustrateur de super-héros qu'on a interviewé à Angoulême.
Aussi dans cette émission, oui.
Voilà, et les super-héros vont aussi s'en prendre plein la gueule tout à l'heure pendant une des chroniques. Et on a un programme d'actualité qui est, je dirais, ma foi, assez chargé. Et tout ça pourquoi ? Ben parce que déjà on a une dépêche qui est arrivée jeudi dernier. And now,
the news. Les informations vous sont présentées par Xavier.
Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Jeudi dernier, donc, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la relaxe envers Charlie Hebdo, attendu que les 3 caricatures incriminées qui ont été considérées comme injures à caractère raciste par les associations, par les principales associations musulmanes de France, dont le Conseil consultatif de la religion musulmane en France, créé par Nicolas Sarkozy, Charlie Hebdo a été relaxé après quand même. Un joli défilé de vedettes politiques, de pratiquement tous les candidats, sauf une qui ne s'est pas exprimée, qui a envoyé timidement son mari. Et je crois qu'il y a Jean-Marie Le Pen qui avait pris fait et cause pour le comité des associations musulmanes de France. Et même Nicolas Sarkozy a pris la défense de Charlie Hebdo en prenant fait et cause contre le comité qu'il avait lui-même créé. Donc vous avez le compte-rendu complet sur le site ActuABD avec les interviews de la défense gagnante, dont Richard Malka, qui a fait l'histoire cachée du petit Nicolas Sarkozy.
C'est c'est la face cachée de Nicolas Sarkozy. Il a scénarisé, il a adapté le bouquin de Philippe Cohen.
Non, c'est pas une adaptation d'un bouquin, c'est une enquête originale.
L'enquête voilà. Au départ n'était pas sous forme de scénario.
C'est moi qui m'étais planté. Par contre, ce qui est très intéressant à lire, c'est le texte du jugement sur le blog de Maître Eolas, qui est un célèbre blogueur qui est lui-même avocat et qui reprend l'intégralité du jugement sur son blog. Ceci commenté: Johan Sfar vient de sortir chez Delcourt, c'est sorti justement la semaine dernière. Greffier, c'est son journal de bord du procès qui est sorti donc juste avant le jugement et dans lequel il a fait des illustrations de ce qui se passait évidemment dans le tribunal, puisqu'on peut pas prendre de photos ni enregistrer, mais il a pris note, il a relevé toutes les petites phrases qu'il a commenté de son côté, ainsi que bien évidemment quelques dessins de presse qu'il avait fait dans Charlie Hebdo à l'époque où il en faisait partie. Thomas, je te voyais bailler. C'était si chiant que ça ce que j'avais à dire ?
Ouais.
D'accord. Alors si tu trouves ça chiant, j'espère que tu vas pas dire du mal des chansons de Claude Nougaro. Puisque les éditions Petit à Petit dans leur série Les chansons en bande dessinée sortent les chansons de Claude Nougaro en bande dessinée. Ça devrait pas tarder à arriver. On y retrouve pas mal de dessinateurs qui vivent à Toulouse, comme Gilles Harris, qui c'est qu'il y a encore que je connais de la région, Julien Akita, d'autres dessinateurs comme Pedro Rodriguez, Benjamin Boucher, Laurent Houssin. On y retrouve le jazz et la java, Cécile ma fille, au Toulouse bien évidemment, l'amour sorcier, la pluie fait des claquettes, Armstrong. C'est un bouquin qui est plutôt intéressant puisque ça reprend en fait les paroles des chansons et c'est illustré en bande dessinée. C'est quelque chose qui est repris par plein de, d'éditeurs comme Soleil et qui avait été initié à une époque par Delcourt avec les aventures de Renaud en bande dessinée qui à l'époque avait plutôt bien cartonné. Voilà, Thomas, je crois que tu as le programme de nos amis de la Cinémathèque.
Oui, de l'extrême,
plutôt que bailler, ça me fera plaisir.
L'extrême cinéma, surtout le festival qui se déroulera du 6 au 15 avril 2007. Il s'agit de la 9e édition et cette année, le thème principal est Mondo Bizarro, puisque on part sur les traces des Mondo Movies, ces documentaires ou showcumentaires en forme de zapping à couleur qui sévissaient dans les années 60 et 70.
Bref, de la culture.
Voilà, il s'agit de documentaires fictifs. On aura Bob Roberts de Tim Robbins aussi. On aura Spinal Tap de Rob Reiner. La bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo. Le sang des bêtes de Franju. Les maîtres fous de Rouche. Des morts de Thierry Zeno. Ou The Act of Seeing with One Eyes de Stan Braquage. C'est le réalisateur vidéo expérimental. Et on a aussi l'énigmatique cinéaste belge Jean-Louis Van Bell qui sera présent, viendra les 12 et 13 avril nous présenter trois de ses films, Paris Interdit dans le cadre des Mondo Movies, ainsi que Le Sadique aux dents rouges et Un tueur, un flic, ainsi soit-il, accessoirement rebaptisé La balançoire à Minouche. Voilà, donc c'est assez réjouissant. Et il y aura aussi deux séances spéciales, mardi 10 avril, Presque des hommes de Julien Fournet, en présence de... de Julien Fournet, cinéaste, et Sébastien Fauvarc, bisounours, traqué par l'imitoyable sergent Verdun, un schtroumpf, un snorky, un bisounours vont tenter l'impossible pour retrouver l'amour des enfants et en avant pour un gloubi-bousguesque farce potage soutenu par l'entêtante musique de Corbier. Voilà, donc c'est
Corbier,
très savoureux.
Corbier qui s'est relancé d'ailleurs dans une carrière de chanteur à texte, hein, oui. Et qui marche plutôt bien d'ailleurs. C'est pas
c'est
mal
d'ailleurs
du tout.
L'occasion d'apprendre à nos amis trentenaires que Pas de pitié pour les croissants fera l'objet d'une adaptation au cinéma.
Alors là, la grande question qui se pose, c'est Corbier qui est justement en procès vis-à-vis d'Abbé parce qu'ils n'arrêtent pas de rediffuser la série.
Mais oui,
la série,
c'est la grande question que tout le monde se pose. Corbier fera-t-il partie?
Et non, parce que justement, il est en très gros procès là-dessus parce qu'ils doivent tous les droits de représentation, les droits de chanson et tout ça qui lui ont jamais été payés. Ah. Jackie et Dorothée, oui, mais alors les autres. C'est passé à
Ah,
l'as.
C'est principal, il y aura Ariane, Super Pat, voilà.
Les musclés.
Voilà, le savon fou, ouais. Les musclés, ouais.
Oh là là.
Ségolène et Nicolas, hein. Ils vont chanter leur nouveau tube.
Oh, super.
Ouais, qui est une catastrophe, hein, ça. C'est personnel. Je ne peux pas juger de la musique. Par contre, pour ce qui est de la bande dessinée et tout le reste, oui. Alors évidemment, Thomas a braqué les bouquins, si tu peux me les rendre, là, les deux BD que je t'ai confiés tout à l'heure. Puisque donc, tout à l'heure, non, dessous, fais pas l'innocent, voilà. non mais si tu peux m'en passer un au moins, ce serait sympa, merci, c'est chez les Humanoïdes Associés, le deuxième tome. J'avais pas pris les références, voilà, oui, je n'ai pas eu le temps de le lire, donc je n'en ferai pas la chronique. scénario de Gabriel Delmas et dessin de Robin Reich. Ah oh, punaise, je suis nul. Robin Reich qui sera en dédicace tout à l'heure à 15h à la librairie Terre de Légende. Tout un dôme, dont le deuxième tome vient de sortir chez les Humanoïdes Associés. C'est proche, je vais dire, c'est l'histoire de deux amoureux qui sont des généraux de guerre pour le compte de l'empereur Darius. N'y cherchez pas des références historiques, il n'y en a pas. Il y en a effectivement, mais je veux dire, ça ne se rapproche pas scénaristiquement à une période spécifique de l'histoire. Par contre, c'est très amusant d'avoir ces deux amoureux, Jeanne et Dante, qui, pour la défense, pour la conquête de Darius, de l'Empire de l'Humanité contre les barbares, Jeanne est morte sur le champ d'honneur, et c'est bête, hein. Et Dante, lui, est laissé pour mort, mais va être ressuscité. Et ça, c'est dans le deuxième tome. Il revient, il est pas content, mais en tout cas, c'est très très beau,
c'est
graphiquement.
Il spoil la fin du premier tome, c'est génial.
Bah oui, parce qu'on en est au deuxième tome. Et graphiquement, c'est très beau. C'est quand même, ça laisse une claque. Le travail de Robin Reich est quand même assez bluffant sur les expressions, sur la noirceur. Bon, sur les couleurs, il s'est un peu fait aider sur le premier tome. Donc, il est tout à l'heure en dédicace. C'est chez Humanoïdes Associés. La dédicace a lieu à partir de 15h à la librairie Terre de Légende. C'est la rue.
Rue Gambetta.
Rue Gambetta, voilà.
Juste à côté d'Ombre Blanche.
Exactement. Merci beaucoup, JB.
Avec plaisir.
Je crois que tu connais bien le coin.
Nous allons passer à la revue de presse, puisqu'on a un magazine cinéma à chroniquer, c'est Ciné Live.
Ouais!
Je vous le donne en mille, les questions en couverture.
Sparta!
Gérard Butler.
Voilà, c'est Léonidas en fait.
Ouais, hein, exactement.
C'est le numéro 110. Là, moi j'ai le petit format en fait, puisque Ciné Live édite aussi des petits formats. Vous pouvez le trimballer dans le métro plus facilement, tout ça. Le petit format est à 1,90€. Et il s'agit du numéro de mars 2007. Et alors, outre les pages consacrées à 300, on a aussi, à l'occasion de la sortie de La Cité Interdite, on a une rétrospective où il y a Chun Fat qui revient sur sa carrière à Hong Kong.
Pas mal.
Eh oui, donc bon, après, bon, si tu t'intéresses un peu au film hongkongais, je sais, JB, t'es un peu comme moi, bon, on apprend rien dedans. Hein.
Il faut se rappeler que Thomas adore Chun Fat, c'est un de ses acteurs préférés.
Non, mais
oui, c'est vrai.
Ils le savent, les auditeurs.
C'est vrai. Et enfin, le truc, c'est bon, voilà, et quand il dit, des fois, je tournais jusqu'à 10 films par an, j'enchaînais 3 tournages, un le matin, un l'après-midi, un le soir. Oui, voilà, c'est la notoriété, enfin, c'est la façon de travailler là-bas, et c'est vrai qu'ils sont un peu sortis, Michel Yeo, Chun Fat, tout ça, maintenant, ils peuvent s'accorder quelques vacances entre deux tournages. Et avant de, évidemment, tu disais, JB, qu'on allait retrouver Chow Yun-fat dans un petit film d'auteur qui va sortir en mai 2007.
Oui, c'est juste que le troisième volet des Pierres des Caraïbes, qui s'appelle Jusqu'au bout du monde, qui me rappelle, moi, un autre film de Wenders. Bon, ça, c'est chose à part.
Voilà, et donc il jouera le rôle d'un pirate, d'un méchant pirate d'ailleurs. Voilà,
donc c'est à savoir si la fin sera aussi décousue que celle du 2.
Mais j'ai beaucoup aimé la fin du 2, personnellement.
Moi aussi.
D'accord.
Donc, on rappelle les références de Ciné Live. Donc, il s'agit du numéro 110 de mars 2007. Et c'est 300 en couverture.
Et moi, je vais plutôt me mettre dans la presse locale satirique, puisque le Satiricon numéro 41 est arrivé cette semaine. C'est donc le numéro de mars 2007. C'est un trimestriel qui vaut 2€ en kiosque. Et une chose à noter, le Satiricon est très mal et a fait un appel à souscription. Néanmoins, on en apprend des bonnes, parce que dans la reprise du Fric Frac, de l'appel à souscription, ben on apprend que il est précisé très exactement que J.O., Les Croix, Le Rouge et Sanson se sont retirés de l'équipe, c'est-à-dire les quatre illustrateurs de base du Satiricon, ben se sont barrés. Ils ont pas été très d'accord apparemment avec ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu un fric-frac de la rédaction, on ne sait pas trop. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a une pseudo-fiction produite par France 2 sur l'affaire Allègre qui réhabilite les notables. C'est, je veux dire, le résumé du Satiricon est assez sanglant et je vais dire ça fait un peu peur. Donc c'est l'histoire de Fabien Borda, qui est président du conseil des programmes de l'audiovisuel, qui soupçonne un complot de l'industrie cinématographique, ourdi par un certain patron du Sud Journal, et par ailleurs sénateur, ça n'a rien à voir, c'est une fiction totale, hein, toute ressemblance avec des personnes ayant existé, c'est-à-dire on apprendra ainsi qu'un certain Jackie Poilade, animateur de l'émission Le Journal de Trop, va lire la lettre du tueur en série Fabrice Fournier, etc. Bref, c'est un peu inquiétant, je veux dire, pour France 2. Est-ce qu'ils vont vraiment programmer un truc pareil et est-ce que ça va un peu se voir? Bah oui, pas qu'un peu. On apprend aussi qu'Olivier Poivre d'Arvor est un coureur de subvention pour le marathon des mots, on le savait déjà, mais on en apprend beaucoup plus sur son CV, qui est, ma foi, pas très gentil. D'autres choses beaucoup plus rigolotes, comme la disparition de tous les Françoires de Toulouse pendant une certaine journée, comme quoi la crise de la presse n'existe pas vraiment, après tout, pourquoi pas. Et Airbus, qui aurait été parfaitement au courant, je veux dire, de ce qui allait se passer actuellement, comme quoi ils allaient se cracher sur leur dernier programme, celui de l'Airbus A380. On le signale donc, le Satiricon attend toujours votre soutien quand même. C'est le numéro 41 de mars 2007, c'est un trimestriel et il est en kiosque pour 2€.
Thank you.
Vous écoutez Radio FMR, les 12h20 sur la poubelle des radios. Et Thomas, on a rencontré un dessinateur que tu admires, que tu adules. On l'a rencontré lors du dernier festival d'Angoulême.
Oui, on va un peu présenter son œuvre avant de lancer l'interview d'ailleurs.
Mais vas-y, je t'en prie.
Donc en fait, il s'agit de Gabriele Delotto. C'est un dessinateur italien, illustrateur, qui s'est surtout spécialisé dans les couvertures et des illustrations originales pour les comics pour Marvel. Et c'est quelqu'un qui n'utilise pas la tablette graphique. C'est quelqu'un qui encore dessine physiquement avec des couleurs, des encres, etc. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est un super dieu de l'aérographe, de l'encre, du pinceau. Bon, c'est vraiment des tueries. J'aurais dû amener un album d'ailleurs pour te montrer.
Ouais,
Et en tout cas, bon, tu verras, on va préciser son site internet. C'est vraiment une tuerie. C'est lui qui a fait les menus, enfin les pages, différentes pages pour les différentes catégories d'images qu'il y a sur son site. Tu verras, c'est même la navigation est superbe.
D'accord.
En tout cas, c'est un gros tueur et c'est un Italien.
Voilà. Si vous avez donc le site internet, c'est Delotto, Delotto.it. Et donc on l'a rencontré lors du dernier festival de la bande dessinée à Angoulême sur le stand Panini. D'où le bruit. On a pas pu sortir du stand, donc il y a un bruit ambiant qui est assez désagréable. Mais la traduction nous a été très aimablement, la traduction simultanée nous a été très aimablement fournie par Sophie Conny de Panini Marvel.
Juste une précision pour comprendre une certaine blague qui aura dans l'interview. C'est quelqu'un qui habite à Rome.
Voilà. Oui. En plus, c'est pas traduit. Voilà. On vous expliquera après.
La fortune.
Excusez-moi.
Gabriele Delotto, bonjour.
Bonjour.
Comment un dessinateur italien se retrouve-t-il à faire des couvertures pour Marvel?
Con molta fortuna.
Avec beaucoup de chance.
Molto impegno e soprattutto la fortuna di incontrare le persone giuste al momento giusto. E per me sono stati la Panini France, la Panini Germania, la Panini Europa e poi dopo anche la Marvel, che naturalmente è tutta Marvel. E poi la Marvel US che mi ha dato la possibilità di lavorare, quindi comunque ho fatto molto, molto training, molta gavetta in Europa.
Donc il a commencé en fait avec la Panini Italie, puis France et Allemagne.
Lavori a Marco Lupoi.
Ok.
E nel lontano 98 ho portato a far vedere delle cose, oltretutto non erano neanche cose Marvel, ma era Batman, cioè erano delle tavole di prova di Batman. Sì, perché io in realtà non volevo andare a presentare il lavoro, volevo soltanto
cioè, Marco è questo.
Sì, volevo far vedere delle cose, ho fatto vedere quelle tavole, Marco sono piaciute molto e poi mi ha chiamato per cominciare a fare delle cose per l'Europa.
Donc en fait, il a présenté ses dessins à Marco Lupoi, qui est directeur éditorial de la Panini Comics au début en 1998 et il a donc présenté ses tables qui étaient de Batman. D'accord. Donc voilà, ça lui a beaucoup plu, il a commencé à travailler pour le marché européen.
Une question technique sur votre travail, est-ce que vous inspirez de modèles ou alors est-ce que vous faites tout inspiration
Non, normalmente prendo spunto da idee, anche da fotografie, da quadri, da tutto quello che mi circonda e poi lo rielaboro, però quasi mai seguendo comunque la fotografia fino in fondo, cioè la fotografia è uno spunto. Quindi non è che seguo, faccio la foto vera e propria. La prendo come spunto e poi dopo faccio il disegno.
En fait, c'est surtout une inspiration. Il va s'inspirer de toutes les images qu'il va voir. Ce pourra être une photo, ce pourra être une peinture. Il ne la copiera pas. Il va s'inspirer de l'ambiance, de l'atmosphère qui se dégage de cette photo.
C'est parce qu'il y a certains artistes qui ont des modèles, des personnes qui posent pour s'inspirer pour les cadrages, etc.
Certains. Moi.
Est-ce que des fois il n'est pas d'accord sur la manière dont est représenté un personnage à l'intérieur d'un comics dont il doit faire la couverture?
Ma non d'accordo con l'editore, cioè con l'editor.
Avec l'éditeur, sì.
Sì, ogni tanto sì, perché comunque io magari propongo delle cose. Non succede spesso, cioè quasi mai. Però ogni tanto quando l'editore ha un'idea molto precisa cioè un'idea molto precisa di quello che vorrebbe vedere in copertina. Allora magari anche se tu gli fai tre layout, lui però ha quella cosa in mente e quindi ti rifà fare magari, però non è che succede spesso, normalmente quando mando le idee almeno io ne mando sempre un paio, almeno due, una delle due va quasi sempre bene, cioè difficilmente, mi dice sempre fortuna.
Il arrive peu que l'éditeur ne soit pas d'accord avec, avec ce qu'il va diffuser, ce qu'il va dessiner. Parce que lui-même va... Il arrive rarement que lui, déjà, ne soit pas d'accord avec ce qui est dessiné par l'éditeur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il présente deux tables qui essaient de s'approcher le plus possible de ce qui est demandé, mais il reste toujours lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas épouser strictement la volonté ou le travail de l'éditeur. Il va également mettre la patte de l'autre. En général, il en présente deux en essayant d'être assez proche de la BD, tout en respectant sa propre identité. En général, il en présente deux et il me disait que par chance, il y en a toujours une des deux qui est acceptée.
Une question un peu frivole sur le sport. Les super-héros du monde réel sont les footballeurs. Est-ce qu'à quand un artwork sur Alessandro Del Piero ?
Non, Alessandro Del Piero, no. Totti, no, Alessandro Del Piero, no, Alessandro
Del Piero. Non, in Italia.
Qual è la domanda?
No, dimmi.
Arrivi a Roma, allora.
Roma. No, Juve.
Alors,
i disegnatori di fumetti sono i nuovi supereroi.
Non, les dessinateurs de bande dessinée sont les supereroi.
Avez-vous plus peur de décevoir votre éditeur ou vos lecteurs?
Di deludere, no, i lettori. I lettori, ma primo me stesso.
Le premier qu'il a peur de décevoir, c'est lui-même, et après les lecteurs.
Grazie. Au cours de l'histoire des comics, certains personnages ont une garde-robe qui a évolué. Est-ce que vous préfériez pas certaines fois les looks qu'ils avaient avant? Est-ce que vous aimeriez retrouver le look des années 70 par exemple?
Io parto quasi sempre dai costumi originali e poi modifico leggermente i costumi originali. I miei costumi, cioè i vari costumi nuovi così, pochissimi mi piacciono veramente. Io preferisco quelli originali, però con dei dettagli moderni, quindi io inserisco sempre delle cose diverse anche su un costume che può essere quello di Wolverine, quello di Iron Man, cioè io prendo spunto da quelli originali, però li modifico a modo mio mettendoci dei particolari più moderni, quindi modernizzandoli un po'.
D'accord, en fait lui s'inspire, il part, sa base c'est le costume original et originel. Ensuite il va quand même utiliser tout ce qui est plus moderne, mais il reste quand même sur un modèle qui est plus ancien, on va dire.
Je vais profiter qu'on a un Italien, les Italiens aiment bien la bonne chair et en plus on a un chef devant nous. Donc quelle est la bonne, quel est votre ingrédient secret pour cuisiner une très bonne couverture?
It's a secret. Ma there is not a real secret. There is I'm looking for every time an idea, different idea for each covers. I try to find different ideas. I don't want never repeat myself in my heart. Sometimes I find good solutions and I have the intention and to use it different times, like some artists do. But no, okay. I think it's better every time. Take time. I take my time for the ideas. So when an editor, a publisher, asked me a cover, every time I say okay. I need 2 or 3 days to think about it. And sometimes I work a lot for 2, 3, 4 days on the paper. It never happened. After one day that I don't work, I go outside with my wife, I go around. shit. This could be a good idea. And I come back in my office and work. And yes, this is the right solution. But this is the answers. The question before you did to me about what is the inspiration? Inspiration is around me, is around us. Everything you can, she can do. Inspiration, you are the women that are cleaning. I don't know. Yes, different. Everything is different.
Donc en fait, le secret de Gabriele Dall'Orto, c'est ce qui fait toute la qualité de son travail, c'est que déjà il va se renouveler en permanence. Il va chercher à se régénérer, à trouver de nouvelles idées. Ce qui fait que quand un éditeur l'appelle, il accepte et se donne 2-3 jours pour réfléchir. Et c'est le deuxième secret. Finalement, il y en a deux. Le deuxième secret, c'est qu'il va prendre son temps. Il va essayer de... Justement, pour éviter de faire les choses rapidement, pour éviter de décevoir son public en refaisant les mêmes choses ou en ayant un trait qui soit trop répétitif, des idées trop répétitives, il va en permanence prendre son temps, regarder, chercher de nouvelles inspirations, essayer de coller typiquement, parfaitement au projet. Voilà les secrets qui font toute la beauté de ses dessins.
Gabriel Dell'Otto, grazie mille.
Grazie.
Merci. Donc, oui.
Bah vas-y, explique.
Donc, il y avait une blague sur le foot dans l'interview. Pendant que Dusport est en train de bricoler son micro, donc nous allons pouvoir en parler avant qu'il puisse apporter des précisions. Il faut préciser. Donc, il faut savoir que donc comme Gabriel Dell'Otto via Rome, c'est un Romain, et nous l'avons lancé sur Alessandro Del Piero qui appartient à Juventus de Turin. Là, l'énorme boulette. Il faut savoir qu'en Italie, les Milanais, les Turinois et les Romains peuvent pas se saquer en football. Donc là-bas, les clubs sont d'ailleurs prioritaires par rapport à la sélection, contrairement à ici. Et vraiment, c'est vraiment voilà, une lutte ancestrale entre les clubs de différentes villes. Voilà.
Même l'attachée de presse Sophie Conny, qui nous a fait la traduction en simultané, au bout d'un moment, et qui vit en Italie, a dit non, pitié, lancez pas les Italiens là-dessus, jamais.
Ah, t'aurais dû évoquer Francesco Totti, je suis sûr que ça lui aurait fait vachement plaisir.
Mais justement, parce qu'en fait, la question c'était, pour nous, les super-héros du monde moderne, ce sont en quelque sorte les footballeurs. Alors, à quand un artwork sur Del Piero, il dit non, jamais, non, Totti, non, la Juve, voilà. Donc c'était la page sport de l'interview.
Voilà, si vous n'avez pas remarqué, on a fait un effort dans nos précédentes interviews jusque-là, c'était la question à la con et ça en faisait partie. Voilà. Un artbook donc qui est disponible en France et en français, il me semble.
The Art of Gabriel Dell'Otto, qui est en deux langues, c'est en trois langues, en anglais, italien et français.
Voilà.
Vous pouvez vous procurer, il est pas très cher, je crois qu'il est à 25€ par là. C'est pas un pavé, mais vu la qualité des dessins qu'il y a dedans, etc., même des pages à déplier et tout, c'est vraiment une tuerie de chez tuerie. C'est divisé en plusieurs parties, il y a les croquis, ensuite il y a les croquis avec de l'ombre et des matières comme le travail sur le modelé, ensuite sur la couleur, et enfin il y a les trucs dépliables avec les énormes fresques. Et c'est quelqu'un, donc du sport est arrivé en retard, c'est quelqu'un qui travaille encore au pinceau, à la brosse, etc., qui travaille beaucoup sur les matières, il enduit le support de plâtre pour avoir vraiment un côté pas lisse et tout. Et c'est quelqu'un aussi qui travaille d'après des supports foncés. Donc ça permet d'avoir une matière même dans le blanc. Donc c'est vraiment très impressionnant ce qu'il fait.
Voilà, Gabriel Dell'Otto que l'on a rencontré à Angoulême en janvier dernier. La régie s'impatiente et même murle dans le casque. Il est 12h34. La pub.
Tension, stress. Vite, Subutex Max. Subutex Max, ça fait du bien par vos apex. 200€ les 500 grammes. Subutex Max, ça décolle.
On va entamer les sorties bande dessinée direct et ensuite on va parler du film. Ouais. Donc on va rester dans la bande dessinée. En fait, on va commencer avec une bande dessinée qui vient de sortir dans la collection Angle Comics, chez Bamboo Édition, sur un scénario de Keith Giffen et Jean-Marc de Matteis. C'est un dessin de Joe Abraham, Héros au carré. Oui, il y a un petit 2 en haut, donc c'est bien Héros au carré. Miroir déformant. Bon, tout commence par la victoire du mal. Quasiment tout l'univers a été dévasté. Le Captain Valor, le plus puissant des super-héros, n'a rien pu faire pour sauver l'humanité de l'insatiable soif de sang, la terrible Caliginis. Tout n'est que ruine fumante. Et au moment où Captain Valor va périr, il se retrouve projeté ailleurs. L'univers est dévasté? Oui,
mais pas le multivers, grand classique hein, quand même de Marvel et DC. Il existe donc encore des univers parallèles qui n'ont pas été dévastés. Un univers où New Amsterdam n'a pas été pulvérisé, mais où New York a perdu deux tours. Un univers où le président Al Gore n'a pas passé de loi sur les super-humains, mais où le président Bush Jr. a fait une faute en signant la loi sur l'éducation. Un univers où il n'existe pas de super-pouvoir, donc pas de Captain Valor, excepté dans les illustrés de papier, où tous les humains sont normaux, même Milo Stone, un jeune homme au ventre mou, à la barbe de 3 jours, au revenu ridicule, et dont la seule ambition est de terminer un documentaire sur l'entreprise de son oncle, spécialisé dans le traitement des ordures, pardon, des déchets, des poubelles. Oui, forcément, c'est un peu moins classe. C'est dans cet univers totalement délirant dans sa fantaisie que débarque Captain Valor et qui va découvrir que Milo Stone n'a jamais rencontré l'oracle, qu'il n'a jamais acquis de super pouvoir, que sa petite amie Steffi n'est jamais devenue « Kaligine, c'est la destructrice d'univers !» Et ça tourne très mal parce que, justement, Kaligine débarque aussi dans notre univers. Sauf qu'en changeant d'univers, les deux ennemis mortels sont confrontés au pire des dangers. Eux-mêmes étant restés normaux et devenus adultes. La naïveté macho incroyable des super-héros face à la férocité des éditorialistes de Fox News et des débats du Jerry Springer Show. Bref, un univers de cauchemar, l'Amérique parano. On passe rapidement outre sur le graphisme qui est assez rapide pour se concentrer sur les dialogues et les situations absolument hilarants et sans pitié pour les pervers costumés surpuissants. Kes Griffin et Jean-Marc de Matteis au scénario, Joe Abramo au dessin, Héros au carré, Miroir déformant, c'est chez Anglo Comics et chez Bamboo Édition. C'est vraiment du second degré sur les super-héros, ça fait quand même un peu de bien. Passons du super-héros au justicier. Pour être un bon justicier, il faut...
Il faut un sens de la justice exacerbé.
On sait qu'il faut être déséquilibré de ce côté-là. Mais surtout, il faut...
Une cape ?
Pas forcément.
Il faut mais... des sous.
Voilà. Donc, une très très grosse fortune pour s'acheter les gadgets, pour se payer l'entraînement et tout le reste. Et si possible, qu'on ait encore la trentaine, parce que sinon on est un peu mal. Je veux donc parler de ce justicier des temps modernes, qu'est Largo Winch. Jean Van Ham au scénario, Philippe Franck au dessin. Largo Winch, au 15e tome, vient de sortir. Il s'appelle Les Trois Yeux des Gardiens de Tao. Non, il n'est pas encore sorti, il sort la semaine prochaine. C'est dans la collection Repérage chez Dupuis. Et afin d'emporter un marché aéronautique en Chine, le constructeur Winch Avionics cède aux autorités chinoises et va opérer un transfert de compétences, voire délocaliser une chaîne de montage d'avions en Chine. Mais le ministre chinois de l'aviation demande une ultime faveur, que Largo Winch lui-même soit présent pour la signature du contrat à Hong Kong. Bon, vous allez me dire que c'est un peu normal quand on est le patron d'un gigantesque groupe international avec des activités très variées comme l'armement, la banque et les médias. Bon, paraît que toute ressemblance avec des personnes ou des compagnies telles que Lagardère ou ADS ne serait que purement fortuite. Le problème, c'est que Largo Winch est injoignable. S'étant accordé 15 jours de vacances, le Xanadu personnel de Nerio Winch. Là où ça se complique, c'est qu'un message lui parvient, lui rappelant que dans son passé, plutôt récent d'ailleurs, il a demandé les faveurs des triades chinoises et que celle-ci souhaiterait qu'il apure sa dette. Alors on a beau dire qu'à force, Largo Winch, ça n'est que de la grande bouffonnade, tirée en bande dessinée à 500 000 exemplaires, que c'était encore crédible à l'époque des romans sortis chez Mercure de France par Jean Van Ham, qui à l'époque bossait chez Philips, donc il savait ce que c'était qu'une très très grande multinationale, aux couvertures illustrées par Danny d'ailleurs, mais que maintenant les montages financiers et la gestion de groupe font plutôt dater, ils ont même plutôt 30 ans, voire 35 ans de retard. Mais on s'en fout, c'est plaisant, c'est bien dessiné, et largement plus crédible que tous les James Bond avec Pierce Brosnan. C'est un suspense, oui, financier, non. Bientôt la fête des pères, donc préparez un paquet cadeau, ça lui fera plaisir. Allez, à votre papa. Largo Winch, tome 15, va arriver dans la collection Repère chez Dupuis, ça s'appelle Les Trois Yeux des Gardiens du Tao, toujours sur un scénario de Jean Van Ham. Je ne sais pas si c'est adapté d'un roman, celui-là, et c'est dessiné par Philippe Franck.
Oui, je crois que JB avait quelque chose à dire. Il a fait une moue atroce pendant toute la chronique.
Bah oui, parce que j'ai essayé de faire une transition en parlant de justicier. Mais tu t'attendais à quoi? Que je parle de Batman?
Non, mais c'est que j'avais lu ta chronique avant, donc je savais de quoi ça parlait.
Thomas, j'avais dit de ne pas laisser traîner les papiers.
J'ai du mal avec Van Ham, j'ai du vraiment beaucoup de mal avec le fameux Largo Winch. J'ai vraiment l'impression que c'est du Paul Solitaire.
Voilà, il a descendu, il l'a même pas lu, et alors que la couleur de l'argent est un immense roman.
Et que tu en dises du mal par rapport à Brosnan, au travail de Brosnan, non.
Non, je parlais des scénarios.
Dire quand même que
je parlais des scénarios
fan,
de Largo Winch.
Un fan de James Bond à la base.
Oui, je parlais des scénarios de Largo Winch et des scénarios de James
j'ai
Bond.
J'ai lu du Largo Winch, j'ai vu des James
pas
Bond.
Pas le tout dernier, il n'est pas encore sorti.
Peut-être pas le dernier, je l'avoue, certes. Mais les 14 autres premiers tomes, ça m'a suffi. Ça va, quoi.
ça va, t'as eu de la patience, toi, au moins. T'as lu 14.
Oui. Malheureusement, je les ai lus.
Je crois que j'en ai sauté au moins 10. Je ne suis pas sûr.
Oui, on fait pas les fiers,
et
mais.
Et tu dis du bien du dernier. Bravo.
Ben, je dis non, c'est plaisant. C'est, je vais dire graphiquement, il y a rien à redire au travail de Philippe Franck.
Oui, d'accord.
Après, bon. Je pense que pour un cadeau à la fête des pères, c'est idéal.
Oui, sauf que si ton papa s'intéresse pas à la BD.
Ben, le mien, il s'intéresse légèrement à la BD. Il aime bien les James Bond.
Offre-lui autre chose.
Oui, l'intégrale du Stade Toulousain. C'est
bien. Non, l'intégrale de la série, Largo Winch.
Oh non.
Non. Un petit détail, il y a Bonne, la série Bonne qui vient de rééditer en couleur.
Non, ça on n'en parle pas aujourd'hui.
C'est fait. Et dans les chroniques de la semaine, il y a une sortie de DVD, il y a Little Miss Sunshine qui vient de sortir. Oui. Et pour un cadeau pour la fête des pères, je trouve que c'est vraiment pas mauvais, surtout que le film est vraiment bon.
Si il aime. Enfin bon, il faut aimer quand même l'univers de Gondry. Après, je pense qu'on s'y coule assez facilement.
Ce n'est absolument pas.
On s'y coule assez facilement.
Tu as tout confondu, c'est pas Eternal Sunshine, Gondry, c'est Little Miss Sunshine.
Little Miss Sunshine. L'univers de Gondry, c'est la science des rêves qui vient de sortir aussi cette semaine.
Ok, d'accord.
C'est pour ça que Xavier ne s'occupe pas de la sortie DVD.
Hey, je comprends.
Non, parce qu'en même temps, je fais autre chose, c'est tout. C'est quand tu veux le lecteur CD, il est midi 42. Ah mince, excuse-moi Thomas. Je sais, je t'ai oublié, encore une fois.
C'est mon jingle.
Excusez-moi. Je vous trouve très bien.
La chronique cinéma vous est présentée en son THX Dolby Mono Surround par Thomas.
Et oui, on va parler de barbares aujourd'hui, de boucherie et de tête qui gicle. Donc, nous allons parler de 300.
Ah zut, je pensais que tu allais parler de l'ensemble, mais c'est tout.
Non, nous allons parler de 300 aujourd'hui. Nous faisons un gros dossier sur 300 avec la BD 300 de Frank Miller, le film 300.
Oui, ça va, c'est pas la peine d'en faire 300 tonnes sur une pub gigantesque pour Dim réalisée par un clipper de MTV. À la limite, en face des chocolats belges du Léonidas, je veux bien, mais quand même.
Je suis d'accord avec Xavier.
Oui, moi j'aime bien parce qu'en fait c'est une blague que t'as trouvée dans la salle de cinéma tout à l'heure, tu l'as racontée à toute la rangée, et puis et c'est le premier truc qu'il a écrit dans le programme de l'émission ce matin.
C'est clair. Ça va Thomas, on en est à la page 18, reviens-y s'il te plaît.
Alors, au départ il faut savoir que c'est une BD de Frank Miller et Lynn Varley. Donc Frank Miller, pour les incultes, c'est celui qui avait fait Sin City entre autres et Batman Dark Knight et autres.
Oui, c'est lui qui a renouvelé justement le thème du super héros, du justicier Batman et des super héros avec une noirceur monstrueuse. Et il a fait aussi Ronin et plein d'autres choses.
Voilà. En refusant de soumettre Sparte au roi Xerxès, le roi Léonidas sait qu'il va précipiter son peuple vers la guerre. Désapprouvé par les anciens, il part tout seul avec sa garde personnelle, 300 Spartiates surentraînés, affronter des milliers de soldats perses dans le défilé des Thermopyles. Thermopylès d'ailleurs, je crois qu'il faut dire. Sélectionné et préparé au combat depuis qu'ils savent marcher, parce qu'on chez les Spartiates on est crème, on dit tiens lui il est mal formé, on va le précipiter dans la gouffre et tout. Les Spartiates sont de véritables machines de guerre et ça va charcler sévère.
La gouffre.
Quoi, qu'est-ce que tu dis JB?
La gouffre.
Alors la BD a été créée entre deux épisodes de Sin City, elle a été créée en 98 et donc ça a été colorisé par Lynn Varley et le traitement graphique
Alors je vais dire une énorme bêtise, mais Lynn Varley, je crois que c'est la compagne de Frank Miller.
Et ben moi je suis pas sûr en fait. Donc
je ne sais pas.
Et comme moi je n'ai pas eu cette info, on n'a pas assez préparé l'émission ce matin, je n'ai pas eu le temps de vérifier sur le net. Donc nous permettons de semer le doute dans l'esprit des auditeurs. Voilà, de supputer, voilà. Donc le traitement, imagine le traitement graphique de Sin City, en fait c'est que du noir et du blanc. caisse qui monte. Oh, du Largo Winch. Imaginez du noir et du blanc avec de la couleur par-dessus. Donc vous dites, pour quel intérêt de mettre de la couleur par-dessus? Et en fait, justement, c'est surtout sur certaines images seulement, il y a des grosses zones de noires avec des ombres et tout. Et les couleurs, ben, ça ressort vachement bien parce que c'est des encres un peu crépusculaires avec beaucoup d'ocre, de brun, et qui sont badigeonnées avec de la brosse, ce qui fait que ça apporte une certaine matière et c'est pas désagréable en fait. Et ça, en plus, ça accentue le côté doré de certaines armures, des lances et tout, avec le rouge des capes des Spartiates qui pètent d'une page à l'autre. Et voilà. Alors la BD, bon, on peut dire ce qu'on veut de Frank Miller, les trucs qui est moderne qu'il fait, c'est un peu, on va dire, un peu toujours la même chose. C'est, il utilise beaucoup les poncifs et les clichés. Donc il y a toujours des femmes, c'est toujours des déesses, des physiques parfaits. On a des guerriers avec des pectoraux pas possibles, des tablettes de chocolat. C'est des mecs à la gueule carrée, qui savent où ils vont, ils savent d'où ils viennent, ils savent pourquoi ils vont crever. Bon voilà, c'est, on n'attend pas non plus que ça change et qu'il y ait de l'originalité là-dedans. Donc soyons clairs, si on est allé voir le film 300, c'est pas pour l'originalité du scénario. Mmh.
C'est plutôt pour sa poésie dans le tranchage.
Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, ça raconte quoi? C'est des soldats, c'est juste des soldats parfaits. Parce qu'ils ont été entraînés toute leur vie en attendant le combat.
Non, oubliez Universal Soldier, c'est...
Qui défendent le monde grec contre une invasion barbare. Bon, c'est vrai qu'il y a une polémique en ce moment, ouais, guerrier parfait, Zarian, voilà, contre les barbares, contre je crois que c'est les... Il y a une polémique en Iran, je crois. Ils disent que il y a les fondamentalistes qui disent que c'est un film anti-iranien, ça va pas.
Ah bah donc... oui, puisque l'Empire Perse, oui. À la base, est iranien, mais moi j'ai plutôt vu justement l'inverse. Et... J'ai conquis le monde, je vais soumettre les rares Irakiens qui restent.
Ah, ouais, ok, bon, mais en fait, là, ce qu'il faut voir juste dans la BD, c'est juste que c'est un fait avéré, c'est un fait historique. Donc voilà, il se trouve que les barbares assiégeaient le monde grec qui ont fondé la démocratie. Donc voilà, il fallait bien des effets.
Ouais, c'était les Spartiates, hein, ils venaient de Sparte, donc c'était pas exactement la même chose que ceux qui avaient fondé la démocratie, enfin, qui étaient plus basés sur Athènes. Hein, c'était
oui,
pas
mais
même
justement,
endroit.
C'est.
Il faut aussi dire que pour Sparte, en fait, c'était venu cette histoire de former des guerriers parfaits et tout. C'était pas fait pour des visées expansionnistes. En fait, mais c'était juste fait pour justement
défendre.
Pas se faire emmerder par les gens qui viennent chez nous, quoi, tu vois.
Voilà, et c'est justement, selon la légende, ben, c'est surtout après le sacrifice des 300 Spartiates que
le. C'est pas une légende, c'est l'histoire.
Oui, ben, selon l'histoire antique, que le monde grec va ensuite se soulever contre l'invasion de Xerxès.
À noter que Xerxès a tellement peu apprécié, quand même, de cette fée beauté dehors, que quand même, son fils, il a confié son éducation à des Grecs. Il s'agissait d'Alexandre. Alexandre le Grand, voilà.
Ah non, pas du tout.
Non, attends, c'est pas la même chose là.
C'est quelques siècles plus tard. Hein.
C'est quelques siècles plus tard. Le père d'Alexandre, c'est Philippe.
Philippe de Macédoine.
Ah mince.
C'est pas la même chose. C'est pas du même côté.
C'est pas du même côté, je me plante. Je me plante. Non, il y en a un autre. Ça doit être Darius.
Voilà. La BD, bon, elle était pas prenante par son scénario. C'était surtout par son visuel qu'elle accrochait pas mal. Il y avait un visuel fort, mais bon, bah, ça, on l'a dit. Miller jouait avec des clichés. Bah, le film, c'est pareil. C'est que t'as des mecs monstrueux. Vous vous souvenez de Marv dans Sin City? On disait oui, c'était un mec au temps des gladiateurs. Il aurait eu toutes les femmes qu'il aurait voulu sans être contrainte et tout. Bah là, voilà. Sauf que là, c'est des effets. Bah, c'est un peu le même univers. T'as aussi des croisements, cher à Miller, puisqu'il y a aussi des ninjas dedans, avec des masques de kabuki, donc ils ont une façon particulière de se battre. C'est la fameuse caste des immortels, hein, qui sont à la solde de Xerxès.
Bien retour, un bon petit retour de ces idées qui propageaient dans Ronin.
Voilà, exactement. Et le gros point fort du film, c'est les bastons. Alors, t'as pas le jingle panf dans ta gueule? Non, il est occupé ailleurs, Xavier.
Eh ben, on a ça.
Prends ça dans ta gueule.
Voilà, c'est ça. Et alors, les bastons antiques. Alors, moi, j'ai trouvé là-dedans, parce que moi, je suis ultra fan de l'Iliade. Et dans 3, il y avait rien de Homère dedans. Et là, tu te dis, là, c'est vraiment l'incarnation parfaite des Aristies d'Homère. Ce sont des guerriers qui se mettent en transe et qui charclent 20 vers adversaire d'un coup, et c'est dit d'être porté ensuite en légende, et ces actions se racontaient en chanson ensuite. Mais là, c'est pareil. Par contre, pour les bourrins de base qui jouent au jeu de plateau, il faut pas confondre les berserkers. parce que je me suis un peu renseigné ce matin, les berserkers ils sont pas du tout lucides.
Non, c'est de la folie exterminatrice pure et dure. Voilà, là, eux,
les
ils
mecs
sont raisonnés.
Sont lucides et d'ailleurs, bon, les bastons, c'est. Au moins, on a.
Il y,
enfin...
y en a qu'un qui est à la limite de tomber berserk dans l'histoire d'ailleurs.
On a enfin une. Un souci d'inventivité dans les bastons antiques, puisque pour une fois il y a des accélérés et des ralentis, mais ils sont pas utilisés gratuitement pour masquer des chorégraphies insipides. Là, t'as vraiment des ralentis et des accélérés pour justement amplifier les mouvements qui sont vraiment comme des balais. Et c'est un peu un cliché de dire ça, mais d'habitude t'as pas cette impression ça, cette impression là, c'est d'habitude t'as voilà le mec il s'est amusé avec des plans super courts, avec des accélérés, ouais c'est pour créer du rythme, là c'est pas du tout ça, c'est pour souligner des actions et t'as vraiment c'est, ça tabasse quoi. Ouais, JB.
Le problème, moi que je relève du film, c'est que c'est plus une question de forme, où effectivement si tu adores ça. Ok, mais tu vas te régaler pendant une heure et demie, deux heures, je sais plus le temps du film.
Oui, deux heures à peu près.
Mais si, au bout d'un certain temps, moi, je trouve ça vraiment lassant parce qu'ils en ont oublié le fond. C'était vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était pour masquer le néant qu'il y a derrière.
Mais le fond, ça tient sur un ticket de métro, c'est juste qu'il faut empêcher les barbares d'arriver. Donc c'est ça pendant deux heures.
Ils ont rajouté des scènes par rapport à la bande dessinée. Il y a des monstres qu'on voit apparaître dans le film qui ne sont pas dans la BD. Mais c'est vrai, à la limite, qu'ils en fassent un film d'une heure et demie, ou au lieu de le format minimum pour un long métrage, plutôt que deux heures.
Et moi, c'est peut-être le côté barbare qui est en moi qui proteste à ce que vous dites, monsieur El Kabash, parce que franchement, moi, là où j'ai trouvé les longueurs, c'est justement dans les périodes où il n'y a pas de baston.
Et moi, ça dans ta gueule.
Moi aussi, je suis d'accord avec Thomas. Là-dessus, c'était très très lent des fois.
Oui, parce que même s'ils ont étouffé un peu le rôle de la reine et que ça rend très bien parce que l'actrice est superbe et qu'elle est très charismatique et puis elle porte vraiment la partie de Sparte sur ses épaules. Il y a quand même quelques longueurs, notamment par rapport.
Ils les ont piqués à Gladiator.
Exactement, c'est le même champ de blé, le même traitement graphique, ouais.
C'est okay. Exactement la même chose. C'était flagrant.
Je suis tout à fait d'accord. Mais ça il y a quand même une certaine vacuité dans le scénario, aussi bien que ça se passe à Sparte ou dans les Thermopyles.
Mais de toute façon, c'est la bande dessinée déjà n'a pas beaucoup de scénario, n'a pas beaucoup d'épaisseur, je vais dire, à résumer.
Mais tu réduis le temps. T'en fais pas un montage de deux heures.
Non, parce qu'au cinéma, en plus, il faut pas mal réduire et abréger et adapter, c'est trahir. Et là, c'est clair, il y a une trahison par rapport à l'histoire.
Oui, il y a certaines images qui ont été inversées. Il y a Xerxès, il est blessé à la joue gauche. C'est un scandale. Non, après, bon, on peut critiquer. Voilà, le roi des Perses, il est percé de partout. C'est un mec maquillé. On dirait un gay qui sort de la Gay Pride. Voilà, c'est.
Sur son char,
il est porté par des esclaves. Mais après,
il est quasiment deux fois plus grand que Léonidas, qui est quand même pas un petit gars quand on le voit. Quoi.
Non. Après, c'est vrai que même les nanas, elles vont trouver leur intérêt dans ce film. T'as des tablettes de chocolat de partout. Bon, c'est pas parce que le roi s'appelle Léonidas non plus. Je te coupe ta blague.
Les slips absolument superbes. Tout. Des plans d'ailleurs assez osés, à poil, bien foutus. C'est vrai que là, il y avait des filles qui étaient à côté.
Ben, on voit pas mal de paires de seins.
Bon, en même temps, évidemment, il y a une scène de sexe, mais elle reste quand même assez soft.
Elle est très très bien traitée. Moi, j'ai trouvé assez étonnante dans son traitement.
Et chose qu'on, je vous rappelle qu'on avait reproché hier soir quand on en a parlé, c'est que ok, il y a du sang partout qui gicle, mais pas par terre.
Oui, c'est vrai.
C'est propre. Oui. C'est une guerre propre. Ça fait bizarre quand même.
Ah, pourtant, ça chie l'arc, ça coupe.
C'est vrai que ça décapite. C'est la frappe chirurgicale en fait.
Ça gicle des fois le sang. Ça
normalement, quand tu décapites, bon, je vais pas faire. Beaucoup de dessins pour nos auditeurs, mais il devrait y avoir quand même beaucoup d'hémoglobine.
Alors voilà, je pense qu'on a tout dit sur le film, mais je pense que moi, enfin, s'il y a un truc que je dois retenir, c'est que pour une fois, t'as des grandes scènes de baston, les Occidentaux ne savent pas mettre en scène les bastons, et là, pour une fois, fois, tu prends part à la guerre puisque tu te dis putain les mecs ouais je suis avec vous, ils sont pas ridicules quand ils crient, ils bandent leurs muscles et tout. D'habitude bon, tu as Brad Pitt dans 3, t'as tout compris, c'est un ridicule absolument dantesque. Là t'y crois et là tu te dis putain les mecs ils y croient, ils veulent vraiment mourir pendant la baston, et paf mon bouclier dans ta gueule, et paf il y a un rhinocéros géant en face de moi, ben même pas peur, tiens prends ça dans ta gueule et puis on passe à autre chose, et puis voilà. Et puis de toute façon quand tu vas voir ça, c'est que t'as envie de te défouler et puis de voir 10 000 barbares abattus par la main d'un seul gars barbu, voilà.
Ça me rappelle juste un film, ça me rappelle le 13e guerrier,
oui,
où il y avait eu la bataille entre Tiernan et Clayton, au malheur de Tiernan. Et si Tiernan avait eu gagné sa petite colère contre Clayton, le film aurait eu à peu près la même fin que 300, normalement. Ça serait très mal filmé.
D'accord. On va peut-être arrêter là parce qu'il est 12h56 et du sport...
Donc nous rappelons,
l'actu, toi, en
plus. Nous rappelons non, les non. références du film. Donc la BD 300 de Frank Miller et Lynn Varley, qui est éditée chez Rackham, au format à l'italienne, voilà.
Chez Rackham, ouais.
Donc ça se lit en une heure et demie à peu près. Voilà. Le film 300 de Zack Snyder, qui avait auparavant réalisé L'Armée des Morts avec Gérard Butler. Oui, vas-y, j'y vais.
Petite info justement au sujet du trailer de 300.
Oui.
Dans la 1 minute 32 du trailer, on voit apparaître une image subliminale et on voit Rorschach des Watchmen. Effectivement, cette semaine, Sony a donné l'accord, qui avait les droits de Watchmen, a donné l'accord pour que les Watchmen se fassent et que c'est Snyder qui réalise.
Ouais! Ah ouais! Bien vu!
Voilà.
Bien
voilà.
vu.
Voilà, donc Zack Snyder qui a empoché le pactole avec 300 et qui va certainement faire un film qui marquera avec les Watchmen aussi, mais ce sera pas le même scénario effectivement. C'est un film avec Gerard Butler, donc Lina Headey et David Wenham qui jouait Faramir dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc c'est rigolo de le revoir. Bon, les cheveux courts maintenant.
qui est sorti
mercredi dernier et qu'il faut absolument impérativement voir en VO, car la VF est une catastrophe puisque on crie beaucoup et ils ont sélectionné aussi des acteurs qui avaient putain de corde vocale.
Alors si je me trompe pas, ils ont rajouté dans la version française un clip de rap à la fin qui est quand tu l'entends, bon bah tu dis bah, merci.
Alors bonsoir. Qu'il y a du heavy metal.
Un clip de rap
dans le... Oui. J'ai vu ça dans par rapport à une bande-annonce pour 300 version française, et c'est des rappeurs plutôt marseillais vraisemblablement qui ont fait la musique pour 300, et c'est à pleurer de rire.
Quelle horreur.
Bon, on va faire une interruption musicale puisque c'est JB qui a amené le morceau. On va attendre le top horaire tout à l'heure dedans. Je suis désolé. Arcade Fire, No Cargo. We'll be right back.
Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream.
Voilà, c'est JB qui nous l'a amené, Arcade Fire.
C'est le dernier album, mais c'est une bonne continuation de la révélation qu'ils avaient fait il y a 2-3 ans.
Ouais, le single d'ailleurs passe sur les télés anglaises et pas mauvais du tout. Je crois qu'on va y aller assez sec parce qu'il est tard, hein, il est 13h03. Continue dans le super-héros à cap.
Ah ouais, le super-héros qui va justement revêtir sa cape, je crois, dans cette sixième saison, c'est Superman, Clark Kent, dans la série Smallville, qui attaque sa sixième saison ce soir à partir de 20h50 sur M6, avec déjà pour dynamiser un petit peu la série, qui est quand même encore vachement bien regardée aux États-Unis sur la chaîne CW, hein, puisque ils sont quand même 5 millions à chaque fois, à chaque épisode, à regarder, ce qui est un score honorable, on va dire, hein, pour une moyenne série à l'échelle américaine. Et Smallville, c'est pour ça qu'il continue leur petit bonhomme de chemin. Sixième saison, donc, avec surtout l'apparition de nouveaux personnages, le développement des super pouvoirs de Clark Kent, hein, bon ouais, normal, hein, depuis le temps, hein, depuis la première saison, l'apparition donc de ces nouveaux personnages tels que Jimmy Olsen, qui font partie, hein, de la mythologie de Superman. Jimmy Olsen, le photographe, l'archer vert, le nouveau justicier de Metropolis, et dans l'épisode 11 carrément, une petite réunion de la Ligue des Justiciers avec Aquaman, avec Flash et avec Cyborg. Également une apparition de Linda Carter, ça c'est l'actrice, hein, la fameuse
Wonder Woman.
Interpréter le rôle de la mère de Chloé dans Smallville. Donc c'est à partir de ce soir à 20h50 sur M6, et c'est suivi par Supernatural, qui débarque sur M6, mais nous qu'on a déjà pu voir sur TF6. Voilà, c'est ça, quoi, hein, cette série, cette espèce de road movie, on va dire, horrifique, parce que c'est l'histoire de deux frangins qui se retrouvent pour partir à la recherche de leur père, qui a passé toute sa vie à traquer les démons, et qui a laissé donc un journal avec la trace de tous les démons, l'endroit où ils sont. Et alors là, bon, ok, on a droit à toute la kyrielle de démons de sorcellerie qui puisse exister, comme dans le Charme, tu sais, quoi. Allez,
au 1600 Pennsylvania Avenue, vous avez un démon de la guerre, actuellement,
on pêche les légendes avec les noms des différents monstres qui viennent d'un peu partout dans le monde, et puis bon, ça te fait de la matière, tu vois, quoi. Bon, sauf que c'est traité de manière un petit peu plus glauque, un peu plus sombre, hein, tu vois, c'est-à-dire un peu plus rentre dedans quand même. C'est assez agréable à regarder, donc Supernatural, à partir de ce soir 22h35, avec deux épisodes, La Dame Blanche et Wendigo. On continue avec les inédits. Alors là, c'est cet après-midi, et là, moi je pense que ça peut me ravir quoi. Bon c'est con, ça dure pas assez longtemps quoi, un style secret d'héritage, mais là c'est quand même du lourd, c'est de l'américain, ça s'appelle La Famille Carver, ça va être diffusé cet après-midi sur TF1 à partir de 16h. Le titre original aux États-Unis c'est The Mountain. En fait, ça a pas duré très longtemps, ça a duré 13 épisodes, ça a été annulé au bout de 13 épisodes et ça raconte l'histoire de David Carver hein, qui est interprété par Oliver Hudson qui lui a délaissé le giron familial, le carcan pour aller vivre sa vie de rebelle en voulant devenir champion de motocross, tu vois quoi. Et alors que son frère lui, il a fait des études de commerce tranquille et tout. Et manque de bol, enfin bon, c'est pas vraiment manque de bol, mais bon, il hérite d'une station de ski de renommée internationale aux États-Unis, tu vois, genre Aspen, un truc comme ça et tout quoi. Mais le puissant financier Colin Dowling va tout faire pour récupérer ses avoirs, interprété par Mitch Pileggi.
Agent Skinner
dans X-Files bien sûr. Alors c'est un petit peu Dallas à la montagne, voilà. Quoi. C'est à partir de cet après-midi sur TF1, 16h, deux épisodes, le pilote donc qui s'appelle L'Héritage et le deuxième épisode qui s'appelle Rendez-vous raté. Ensuite, en y dédié également, on a un truc qui peut être assez intéressant, qui a duré encore moins longtemps que La Famille Carver ou The Mountain aux États-Unis, c'est Century City. Pourtant le concept est vachement intéressant, novateur et tout hein, c'est le monde des cabinets juridiques mais en science-fiction, c'est-à-dire projeté dans le futur quoi.
Ah ouais, ça doit être
un cabinet juridique en 2032 quoi, tu vois. C'est quand même produit par ça a été sorti en 2004, ça a été produit par Paul Attanasio qui nous a fait quand même Homicide, qui nous a fait Doctor House, donc pas n'importe qui. Au niveau du la production, il les interprète également, c'est quand même du haut de gamme hein, en ce qui concerne la télé. Johan Gruffudd, Christine Lehmann, Hector Elizondo, le patron de Chicago Hospital, Nestor Carbonell, le mec qui fait Batmanuel dans The Tick, tu sais, Hello, I am Batmanuel.
Ah oui, énorme.
Tu te rappelles, voilà, Nestor Carbonell.
Ah quoi, oh, comment tout va.
Également Eric Schaeffer, il y a eu que 9 épisodes réalisés de cette série et seulement 4 diffusés aux États-Unis, mais bon nous quand on rachète les droits, il y a pas de problème, on peut diffuser les 9 épisodes. Donc c'est à partir de lundi prochain sur la chaîne Syfy, 3 épisodes à la suite hein, un clone pour le clone, viol virtuel et l'œil bionique.
T'en as parlé très rapidement, on parlait donc d'une série The Tick qui a été doublée en français d'ailleurs par Série Club, qui est vraiment à voir si vous voulez vous foutre de la gueule des super-héros, c'est absolument génial.
Ouais, c'est génial.
Je sais pas si vous faites de la série Heroes qui marche très fort aux États-Unis.
Ah oui, c'est énorme.
Ça va débouler quoi, mais enfin bon, la chaîne qu'il a acheté se demande quand veut essayer de la caser, mais enfin bon, c'est toujours le même problème hein, de toute façon quoi. Hein, c'est la frilosité des chaînes françaises qui fait que bon,
alors que okay, alors que point de vue audience, c'est buzz, c'est énorme. C'est énorme,
c'est vrai.
Sinon, il faut aussi savoir qu'il y a la saison 2 de Deadwood qui débarque sur Canal+ jeudi prochain à partir de 22h25. Après la diffusion de la 5e saison de The Shield, hein, toujours le jeudi sur Canal+. Au rayon petite curiosité, je vous ai choisi un Columbo ce soir parce que c'est un pas mal.
Ah,
c'est
yes.
Un pas mal. Sur TV Braise, comme d'habitude, hein, la chaîne de Patrick Lelay. Ce soir à 20h50, ça s'appelle Adorable mais dangereuse de 1973. Hein, ça fait partie des premiers et c'est filmé par Janos Stark, qui a réalisé dans les années 80 La Balance, le film qui a eu plein de Césars et tout, avec Miu Miu le regretté Léotard. Il y a Léotard également, Philippe Léotard, je sais plus qui encore quoi. Avec Martin Sheen, Vera Miles, Vincent Price et Barbara Allen, mon petit gars, ce soir, histoire de... dans le monde des cosmétiques. Il y a Murder Prevention également encore ce soir sur Canal Jimmy à 20h45. Alors c'est une mini-série anglaise hein, qui parle d'une équipe de flics qui est pas là pour chasser les criminels, mais pour choper les criminels avant qu'ils n'agissent, tu vois. Tu comprends un peu
le concept. Oui, c'est Minority Report.
Exactement. Un petit peu, voilà. Donc 3 épisodes, 4 consciences, deuxième partie, et In Extremis en 2 parties, donc le numéro 1 et le numéro 2. Sinon, Life on Mars, qui est diffusé sur 13e rue le mardi à partir de 20h50, il y a une rediff. Session de rattrapage, c'est demain soir à partir de 22h25, donc les deux premiers épisodes demain soir, dont le pilote Bienvenue en 73 et La Loi selon mon boss. Et mardi prochain à 20h50, ce sera
deux autres épisodes inédits, Corruption et le... Je sais même plus ce que j'ai marqué, quoi. Le Parrain, peut-être, je sais pas quoi. Le Paris, ouais, peut-être, quoi. Mais il manque un peu. Lundi soir, FBI porté disparu également, un inédit de la saison 5 sur France 2 à partir de 20h45. C'est l'épisode qui s'appelle Le Mauvais Compte. Il est catégorisé moins 10, alors bon, sans les enfants, avec Marc Pellegrino dans le rôle principal. Sinon, il y a également eh bien du cinéma un petit peu. Et là, je vous ai choisi une sélection pratiquement chaque jour. Tu sais, des soirées spéciales qu'ils organisent à la télé. Genre, ce soir, on va faire un spécial James Bond. Alors, il passe deux James Bond à la suite, un truc comme ça et tout. Et là, bon, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Avec demain soir sur TMC, un spécial Gérard Jugnot.
Ouais.
Avec à 20h45 le garde du corps de François Le Terrier de 84 avec Jane Birkin, Sammy Frey. Il est pas top celui-là, mais par contre il y en a un bien pourri à 22h20. C'est pour Sambrick, t'as plus rien celui-là. Alors, il a été multidiffusé. C'est un Molinaro de 89. C'est un des pires Molinaro que je connaisse à mon avis, avec Auteuil, Anémone et Georges Gérette. C'est l'histoire des chômeurs qui veulent monter un casse et tout. Ça te dit rien? Tu as jamais vu?
J'ai jamais vu. Non, il y a beaucoup de classiques que j'ai pas vu en France.
Ah là là, Daniel Auteuil tout jeune et tout. Ah si. Mais il est bon. Bon voilà quoi.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Lundi sur Ciné Cinéma Classique. Alors là, c'est du classique avec un spécial Grégory Peck et deux films qui tuent. À 20h45, Un homme de fer d'Henry King avec Gary Merrill, Millard Mitchell, Dean Jagger, où il interprète un général américain de l'aviation qui se retrouve à Londres pendant la guerre en 1942 et tout, et puis il va mener ses hommes à la victoire. Hein, tu vois, c'est terrible, c'est vachement bien quoi. À 22h55, ça c'est un gros classique de toute façon, hein, Les clés du royaume de John Stahl de 44 avec Thomas Mitchell et Vincent Price, l'histoire d'un moine écossais au 19e siècle qui est envoyé en Chine pendant une grande famine, tu vois. Et là, comme c'est Greg, quoi, tu vois, il va y aller, quoi. Alors c'est soit ça de lundi soir, hein, comme soirée thématique, soit c'est l'intégrale de Rocky sur Action qui commence à partir de 16h50. Vous tapez les 5 films de 16h50, de 16h50 de l'après-midi jusqu'à 1h30 du matin.
Ouais, on va se les cogner jusqu'à
Rocky 5. Il y a mardi sur TPS Star une spéciale Asia Argento, mais enfin ils auraient pu choisir vraiment franchement d'autres films, mais là ils ont puisé dans on va dire la carrière française d'Asia.
Non, pas La Sirène Rouge.
Si, à 21h, le film de Mégaton de 2002 avec Jean-Marc Barr.
Les Morsures de l'Aube, l'autre.
Et oui, Les Morsures de l'Aube à 23h05, le film de Decaune de 2000 avec Guillaume Canet. On passe directement à jeudi parce que mercredi c'est soit de foot, soit vous allez au cinéma, donc il y a pas tellement d'autres choix. Jeudi sur TF6, ouais, un spécial Van Damme.
Ouais.
Avec deux gros classiques.
Alors il faut qu'on trouve alors.
Alors deux gros classiques. Le premier.
Attends.
Ah, lui il a vu, il peut pas répondre.
Moi je ne dis rien.
Voilà.
Mais okay. Si tu ne trouves pas Thomas,
t'es lui, il a vu. Mon premier à 20h50 est le premier film réalisé aux États-Unis par un réalisateur. Chinois.
Ah, c'est merde. C'est le oui de genou là.
Oui.
C'est le chasse à l'homme.
Exactement. Ah voilà, de 93 avec dans le rôle du méchant.
Lance Henriksen.
Non.
C'est pas lui?
Non. Avec la momie.
Ah, Arnold Voslo.
Voilà. À 22h30.
Ah, il y a Henriksen. Hein, je suis catégorique dedans.
Hein?
Il y a Lance Henriksen dedans.
Ah, je l'ai pas noté alors que
c'est... C'est lui qui finance la chasse à l'homme justement.
Ah, peut-être, ouais.
Bon!
À 22h30, un buddy movie réalisé par
un autre Hongkongais.
Un autre Hongkongais qui était parti aux
Double
États-Unis.
Team.
Non! Mais qui était revenu.
Knock-off!
Non.
Déjà Hong Kong.
Non.
Exactement.
C'est Hong Kong, le titre original.
Mais qui était revenu à Hong Kong pour
les réaliser. Il fouetté par une anguille.
Ouais. Qui est un des films les plus géniaux avec Van Damme.
Énorme
de toute façon, hein.
Je crois que le plus gros avec Van Damme, ça reste Narco, je suis désolé.
Non, mais celui-là est très fort.
Scène d'entrée.
Donc buddy movie classique avec Rob Schneider, hein.
Oui.
Lui il est un petit peu décevant, on va dire, mais c'est le seul qui est décevant, avec Paul Sorvino, non, je t'ai plus. C'est un film intéressant, donc c'est à 22h30 jeudi prochain sur TF6 dans le cadre de cette soirée. Ouais. Van Damme, t'avais quelque chose à rajouter ?
Non, parce qu'en fait, à la fin pendant le générique, il y a Van Damme qui finit le film avec la réplique un film d'action où on transpire pas, j'ai pas eu passé un film d'action. Le truc a rien à voir.
Alors, vendredi, vendredi, et là on va tomber un petit peu dans le mélo, mais enfin ça fait tellement plaisir, et puis c'est le vendredi soir, début de, du week-end, donc il faut un petit peu tasser les ménages quand même, avec sur Ciné Cinéma Famille, une soirée spéciale Mike Newell, ça c'est un peu cinéphile, tu vois, quoi. Ciné, avec à 21h, l'avantage c'est que ce sont des films qui sont pas trop diffusés, donc c'est peut-être une bonne occasion de les voir. Le premier à 21h c'est de An Awfully Big Adventure, de 95, avec Hugh Grant, Alan Rickman, Peter Furst, l'histoire d'une nana dans les années 40 se tire de sa famille pour aller vivre une vie de théâtre et qui tombe amoureuse du metteur en scène. Enfin, c'est beau, c'est beau. À 22h50, Le Cheval Venu de la Mer, celui un peu plus connu, hein, de 93, avec Gabriel Byrne et Helen Barkin, hein, toujours de Mike Newell. Tout ça, c'est vendredi prochain sur Ciné Cinéma.
Très bon petit film Families, pour
Helen Barkin qu'on retrouvera au casting de Ocean 13.
Ouais. Yeah. Et voilà, et c'est tout pour la télé, grosso modo. Sinon, n'oubliez pas, Dr House, ça diffusait n'importe comment. C'est le mercredi après le match de foot sur TF1 à partir de 23h15. Mais enfin, ça se regarde quand même, de toute façon, quoi.
Ok.
Bon, bah, je suis désolé, mais on me le demande. Mais maintenant, barrez-vous.
C'est la semaine prochaine, ça. Voilà, Alexandre Astier qu'on aura en interview aujourd'hui. Thomas, s'il te plaît, juste avant que JB fuie, Thomas, peux-tu nous faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Eh bien aujourd'hui, justement, tu l'as dit, JB était parmi nous d'ailleurs, merci JB d'être venu.
Avec grand plaisir.
On a eu des cris barbares, de la baston, du super-héros, du justicier, des capes de super-héros et de spartiate, et on a eu une interview de Gabriel et des lotos.
Heureusement qu'il n'a pas retenu que j'ai fait une grosse erreur historique, nom d'un slip, belle Hélène, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, les commentaires, les phrases cultes. N'hésitez pas, c'est sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Vous cherchez Supplément Week-end et si vous cliquez, vous risquez de tomber sur le mini-site de l'émission. Et donc, la semaine prochaine, même heure, même antenne, même fréquence, et nous aurons en interview Alexandre Astier, le fameux roi de la série Kaamelott, en interview, préenregistré, je vous préviens, je vous rassure. Et il ne fait pas que ça, il est aussi le scénariste et le musicien, on en parlera la semaine prochaine. La suite des programmes sur cette antenne, et tout de suite, ça c'est du sport, 15h le potager, 16h scène transmission, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 20h c'est la stétéro expérience, 21h30 Stay Tuned et FMR. Et vous nous écoutez sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net. Et le supplément week-end à son mini-site, et vous pouvez nous écouter en podcast.
Et vous pouvez regarder la bande-annonce de la spéciale Kaamelott de samedi prochain, qui est sur Dailymotion. Vous tapez trailer Kaamelott et supplément week-end, et puis vous l'aurez. Sur Dailymotion.
Voilà. Et sur le site de la radio, www.radio-fmr.net. Je le mettrai tout à l'heure en ligne. Promis juré. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Bise. Bye bye. A plus. Je vous laisse avec du sport, ses gros biscottos et sa cape de super-héros.